Étaient-ils tous responsables, ces malheureux aux chairs rongées, aux faces de mort, aux mains transformées en moignons, ces parias enfermés dans leur ladrerie, village d'infection et de pestilence, où ils procréaient entre eux et dont ils ne pouvaient sortir que cliquette en main? Étaient-ils responsables absolument de la pollution des eaux? Car l'été de 1321, les sources, les ruisseaux, les puits et les fontaines furent en de nombreux points empoisonnés. Et le peuple de France, cette année-là, haleta assoiffé devant ces généreuses rivières où ne s'y abreuva plus qu'avec effroi, attendant l'agonie pour chaque gorgée. Le temple avait-il mis la main aux poisons étranges, faits de sang humain, d'urine, d'herbes magiques, de têtes de couleuvres, de pattes de crapauds écrasées, d'hosties transpercées et de poils de ribaude, qu'on assura avoir été répandus dans les eaux? Avait-il poussé à la révolte le peuple maudit, lui inspirant, comme certains lépreux l'avouèrent sous la torture, la volonté que tous les chrétiens périssent ou devinssent lépreux eux-mêmes? L'affaire commença dans le Poitou, où le roi Philippe V séjournait. Elle gagna vite le pays tout entier. Le peuple des villes et des campagnes se rua sur les léproseries pour y exterminer ces malades devenus soudain ennemis publics. N'étaient épargnées que les femmes enceintes, mais seulement jusqu'au sevrage de leurs nourrissons. Après quoi on les livrait aux flammes. Les juges royaux couvraient de leurs sentences ces hécatombes, et la noblesse y prêtait ses hommes d'armes. Puis l'on se retourna une fois de plus contre les Juifs, accusés d'être complices d'une immense et imprécise conjuration inspirée, assurait-on, par les rois morts de Grenade et de Tunis. On eût dit que la France, dans de gigantesques sacrifices humains, cherchait à apaiser ses angoisses, ses terreurs. Le vent d'Aquitaine était imprégné de l'atroce odeur des bûchers. À Chinon, tous les Juifs du bailliage furent jetés dans une grande fosse de feu. À Paris, ils furent brûlés sur cette île qui portait tristement leur nom, en face du château royal, et où Jacques de Molay avait prononcé sa fatale prophétie. Et le roi mourut. Il mourut de la fièvre et du déchirant mal d'entrailles qu'il avait contracté en Poitou, dans sa terre d'apanage. Il mourut d'avoir bu l'eau de son royaume. Il mit 5 mois à s'éteindre dans les pires souffrances, consumé, squelettique. Chaque matin, il commandait d'ouvrir les portes de sa chambre en l'abbaye de Longchamp où il s'était fait transporter, laissant venir tous les passants jusqu'à son lit pour pouvoir leur dire « Voyez ici le roi de France, votre souverain seigneur, le plus pauvre homme de tout son royaume, car il n'est nul d'entre vous avec qui je ne voudrais échanger mon sort. Mes enfants, mirez-vous à votre prince temporel et ayez tout le cœur à Dieu en voyant comme il se plaît à jouer avec ces créatures du monde. » Il alla rejoindre les eaux de ses ancêtres à Saint-Denis le lendemain de l'épiphanie de 1322, sans que personne, hormis sa femme, le pleurât. Et pourtant, il avait été un roi fort sage, soucieux du bien public. Il avait déclaré inaliénable toute partie du domaine royal. Il avait unifié les monnaies, les poids et les mesures, réorganisé la justice pour qu'elle fût rendue avec plus d'équité, interdit le cumul des fonctions publiques, défendu au prélat de siéger au Parlement, doté les finances d'une administration particulière. On lui devait encore d'avoir développé l'affranchissement des serfs. Il souhaitait que le servage disparût totalement de ses états. Il voulait régner sur un peuple d'hommes jouissant de la liberté véritable, telle que la nature les avait fait. Il avait évité les tentations de la guerre, supprimé de nombreuses garnisons intérieures pour renforcer celles des frontières, et préférait toujours les négociations aux stupides équipés. Sans doute était-il trop tôt pour que le peuple admît que la justice et la paix coûtassent de lourds sacrifices d'argent. Où sont allés, demandait-on, les revenus, les dîmes et les anates et les subventions des Lombards et des Juifs, puisqu'on a moins distribué d'aumônes, qu'on n'a pas tenu chevauché ni construit d'édifices? Où donc tout cela a-t-il fondu? Les grands barons provisoirement soumis et qui parfois, devant les remous des campagnes, s'étaient par peur serrés autour du souverain, avaient attendu patiemment leur heure de revanche et contemplé d'un regard apaisé l'agonie de ce jeune roi qu'ils n'avaient pas aimé. Philippe V le Long, homme seul, en avance sur son temps, était passé dans l'incompréhension générale. Il ne laissait que des filles. La loi des mâles qu'il avait promulguée pour son propre usage les excluait du trône. La couronne était échue à son frère cadet, Charles de la Marche, aussi médiocre d'intelligence que beau de visage. Le puissant comte de Valois, le comte Robert d'Artois, tout le cousinage capétien et la réaction baroniale se voyaient à nouveau triomphants. Enfin, l'on pouvait reparler de croisades, se mêler aux intrigues de l'Empire, trafiquer des cours de la monnaie et assister en se moquant aux difficultés du royaume d'Angleterre. Là-bas, un roi léger, décevant, incapable, soumis à la passion amoureuse qu'il porte à son favori, se bat contre ses barons, contre ses évêques, et lui aussi trempe la terre de son royaume du sang de ses sujets. Là-bas, une princesse de France vit en femme humiliée, en reine bafouée, tremble pour sa vie, conspire pour sa sauvegarde et rêve de vengeance. Il semble qu'Isabelle, fille du roi de fer et sœur de Charles IV de France, ait transporté au-delà de la Manche la malédiction des Templiers.